VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour Nathalie Barge et Anne Albertson. Au sommaire en ce lundi 11 mai 2015.
Au Burundi, un mort dimanche dans des affrontements entre la police et des manifestants à Bujumbura. L'opposition dit qu'elle continuera les manifestations contre un troisième mandat du président Nkurunziza.
Nous exigeons aussi un glissement du calendrier parce qu'au regard du contexte actuel, les élections ne peuvent pas avoir lieu dans les délais fixés par le calendrier électoral.
Chovino Mwengezo, président du mouvement Arusha.
Centrafrique, signature d'un accord de paix hier entre le gouvernement et 10 groupes armés.
L'opposition guinéenne suspend les manifestations ce lundi pour donner une chance au dialogue avec le gouvernement mardi.
Les médias burkinabés protestent contre la suspension des émissions de radio interactives par le gouvernement.
Nous sommes contre cette mesure parce qu'en réalité, c'est un recul assez grave par rapport à la liberté d'expression et de presse.
Justin Koulibaly, président du Centre national de presse Norbert Zongo.
Au Yémen, les combattants houthis disent avoir accepté une proposition de cessez-le-feu de l'Arabie saoudite.
Et avant la Minute Écho et les sports, voici les infos.
Au Burundi, un mort dimanche dans des affrontements à Bujumbura avec la police, alors que des manifestants ont défié une ordonnance interdisant les manifestations contre un troisième mandat du président Pierre Nkurunziza. Selon des témoins, un manifestant a été abattu quand la police et les soldats ont usé de la force pour démanteler des barricades dans certains quartiers de la capitale. Au moins 14 personnes sont mortes et plus de 200 ont été blessées dans les manifestations depuis avril. Dimanche également, environ 200 femmes ont défilé dans la capitale pour un appel à la paix et à l'unité. La manifestation a pris fin lorsque la police les a empêchés de marcher en direction de la place de l'indépendance. Les opposants à un troisième mandat du président Pierre Nkurunziza entendent continuer les manifestations. Au micro d'Idriss Fall, Chovino Mwengezo, le président du mouvement Arusha qui participe aux manifestations, réaffirme la position de l'opposition burundaise.
On n'est pas candidat, même ceux-là qui ont présenté leur candidature, c'est à une seule condition que Nkurunziza retire son troisième mandat.
Vous faites allusion à Agathon Rwasa?
Non, ils sont plusieurs, il n'y a pas que Agathon Rwasa, ils sont plusieurs, ils sont 8 candidats aujourd'hui.
Et qu'en est-il des législatives dont la campagne a démarré d'ailleurs?
C'est vraiment une pseudo-campagne, elle n'a pas démarré parce que, au regard du contexte qui prévaut aujourd'hui, la campagne n'est pas possible. Seulement, lui, il a osé procéder au lancement officiel de la campagne, mais en réalité, chez nous, au Burundi, elle ne sera pas possible.
Donc, vous pensez qu'il n'y aura pas d'élection le 26 mai et le 26 juin?
Justement, c'est ça qui fait objet de débat. Au cas où il y renonce à son troisième mandat, nous exigeons aussi un glissement du calendrier. Parce que, au regard du contexte actuel, les élections ne peuvent pas avoir lieu dans les délais fixés par le calendrier électoral.
Et s'il persiste?
Je crois qu'il ne pourra pas réussir à faire face au monde entier, à commencer par les Nations Unies, les États-Unis d'Amérique, l'Union Européenne, l'Union Africaine, et probablement à l'issue du sommet de Dar es Salaam, l'East African Community ne pourra pas lui permettre de continuer à revendiquer ce troisième mandat, qui est tout à fait contraire à la Constitution et aux accords d'Arusha, d'ailleurs, qui ont pu assurer une certaine stabilité dans notre pays.
Chovino Mwengezo, président du mouvement Arusha, joint à Bujumbura.
Le gouvernement centrafricain et 10 groupes armés ont signé un accord de paix dimanche visant à mettre fin à 2 années de violences armées qui ont fait des milliers de morts. Henri Francisque.
Le représentant spécial de l'ONU, Babacar Gaye, a déclaré « Je veux croire que l'engagement est sincère et que nous allons nous engager dans la construction de la paix progressive ». Les médiateurs onusiens ont précisé que toutes les parties ont convenu de désarmer formellement, de renoncer à utiliser des armes pour leurs revendications et de s'engager dans un processus de désarmement, démobilisation, réinsertion et réintégration. L'accord comprend également une clause interdisant l'utilisation des enfants comme soldats ou travailleurs forcés. Rappelons que les rebelles musulmans ex-Séléka ont pris la capitale Bangui en 2013, conduisant à des attaques et des représailles souvent brutales entre milices rivales musulmanes et chrétiennes. La violence armée n'a pas complètement disparu aujourd'hui, mais l'ordre a plus ou moins été rétabli depuis que la présidente de transition Catherine Samba Panza est soutenue par une force de maintien de la paix des Nations Unies.
En Guinée, l'opposition suspend sa marche initialement prévue pour ce lundi, après plus de 2 semaines de manifestations à Conakry et dans d'autres villes du pays qui ont fait au moins 3 morts. Sellou Ndaleine Diallo, le chef de file de l'opposition, a annoncé l'annulation de la manifestation pour donner une chance à sa rencontre mardi avec le président Alpha Condé pour discuter de la crise politique. Des détails dans les dossiers du jour tout à l'heure avec notre correspondant à Conakry.
Au Burkina Faso, les responsables des médias réagissent à la suspension de 3 mois des émissions interactives ordonnée la semaine dernière par le Conseil supérieur de la communication. Le CSC a dit craindre les dérapages verbaux alors que le pays doit tenir des élections en octobre prochain. Au micro d'Idriss Fall, Justin Koulibaly, président du Centre national de presse Norbert Zongo.
Nous sommes de très mauvaises enjeux, à savoir essentiellement la situation des journalistes du Burkina, le syndicat autonome des travaux de l'information et de la culture cinématique et de la société des éditeurs de la presse privée. Nous sommes contre cette mesure. Parce qu'en réalité, c'est un recul assez grave par rapport à la liberté d'expression et de presse. Surtout que cette mesure intervient 4 jours après la journée de la commémoration de la journée internationale de la presse, où au niveau national, par exemple, nous avions comme thème médias d'État ou médias de service public, quel avenir et quelle perspective. Depuis le combat que nous avons mené après l'assassinat de notre confrère Norbert Zongo, en pleine lutte à l'époque, avec ce qu'on appelait Radio Entreparler, le gouvernement de la 4e République avait pu interdire ça. Mais par la suite, avec les différentes luttes, les médias ont pu quand même, la société civile, les organisations des droits de l'homme et autres, on a pu arracher quand même les espaces de liberté afin de permettre aux citoyens de s'exprimer et de donner leur opinion sur la gouvernance politique. C'est pourquoi nous sommes étonnés que le CSC, sans même approcher les médias, a décidé de suspendre donc cette émission interactive sans même concerter qui que ce soit. Nous pensons que c'est une volonté affichée de faire en sorte que les citoyens ne puissent pas même se prononcer. Et surtout, cela intervient souvent dans le cadre de ce que les anciens dirigeants appellent l'exclusion.
Justin Koulibaly, président du Centre national de presse Norbert Zongo, Burkina Faso.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Au Yémen, les combattants houthis disent avoir accepté une proposition de l'Arabie Saoudite de cesser le feu de 5 jours, qui débutera mardi. L'annonce de dimanche est intervenue quelques heures après que l'aviation de la coalition saoudienne ait bombardé la résidence de l'ancien président Ali Abdullah Saleh à Sanaa, la capitale. Il semble que M. Saleh n'était pas à l'intérieur. Il est apparu plus tard à la télévision, debout devant les décombres. Le roi Salman d'Arabie Saoudite a défendu hier l'intervention militaire, qui selon lui a été demandée par le gouvernement yéménite pour, je cite, sauver le Yémen et son peuple d'un groupe sectaire soutenu par l'étranger qui menace la stabilité régionale, selon ses termes.
Après une rencontre avec le président russe Vladimir Poutine, la chancelière allemande Angela Merkel a appelé Moscou à faire davantage pour inciter les séparatistes pro-russes à respecter le cessez-le-feu dans l'est de l'Ukraine et à mettre fin au combat avec les forces de Kiev. Madame Merkel était à Moscou dimanche pour rendre hommage aux troupes russes tuées dans la Seconde Guerre mondiale et marquer le 70e anniversaire de la capitulation de l'Allemagne nazie. Monsieur Poutine a déclaré que les forces de Kiev étaient autant à blâmer que les violations pour les violations du cessez-le-feu en Ukraine et il a ajouté que la Russie mettra à profit toute l'influence qu'elle a sur les séparatistes afin de mettre fin au combat.
Le président cubain Raúl Castro a rendu visite au Vatican dimanche au pape François pour le remercier pour ses efforts ayant permis de mettre fin à 5 décennies de tensions entre les États-Unis et Cuba. Le dirigeant cubain a discuté en espagnol pendant environ 1 heure avec le souverain pontife qui est d'origine argentine. Le chef de file des catholiques du monde a joué un rôle dans les négociations secrètes entre la Havane et Washington qui ont abouti à l'annonce par les deux pays en décembre dernier de mesures pour rouvrir leurs ambassades et retisser des liens économiques. Le Vatican a précisé que le pape avait accueilli des délégations des deux pays dans le cadre de la médiation.
À présent, un coup d'œil sur l'actualité économique en Afrique et ailleurs. La Minute Éco présentée par Jean-Roger Bion.
Le Nigeria a mobilisé 16 millions de dollars ces 10 dernières années pour financer des projets en Afrique, rapporte la revue en ligne Agence Afrique. Ces projets ont été exécutés dans le cadre du Fonds nigérien de coopération technique, le Nigerian Trust Fund domicilié à Abad. Ce fonds, avec un taux d'utilisation de 2,5 millions de dollars par an, a permis de soutenir la création de 13 universités en Éthiopie. Consommer des produits made in Congo, c'est la nouvelle devise économique de la RDC à travers son nouveau parc agro-industriel de Bukangalonzo à Kwango. D'après le ministre de l'Industrie Germain Kabinga, l'objectif est la réduction des importations des denrées alimentaires.
L'objectif poursuivi par le gouvernement est un objectif social. La croissance inclusive transite par ce type d'investissement qui doivent nous être rendus par des coûts et des prix accessibles. Si l'État s'est investi, c'est bien parce qu'il y a une problématique que nous devons rencontrer, celle de la baisse des prix des produits de première nécessité, des produits frais notamment.
Germain Kabinga, ministre congolais de l'Industrie. Les financements de la Banque mondiale au Sénégal en 2014 ont battu les records. D'après Vera Songwe, la directrice des opérations pour le Sénégal, citée par l'agence de presse africaine, selon elle, les engagements financiers ont été de 416 millions de dollars contre une moyenne annuelle de 167 millions de dollars. Toutefois, elle a déploré que 65% des engagements ne soient pas encore absorbés. Madame Songwe explique ce faible taux de décaissement en partie à cause des retards dans la mise en œuvre des activités.
Merci Jean-Roger Bion pour la Minute Éco. À présent, les sports avec Élisée Onkpatine. Bonjour Élisée.
Bonjour Nathalie.
Alors en cyclisme, le Tour du Togo démarre ce lundi.
Avec la première étape de Lomé à Atakame, soit 145 km au total, 10 équipes sur la ligne de départ. Des coureurs venus du Ghana, de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso, de la République démocratique du Congo, du Nigeria, du Mali, de la France, du Bénin, du Togo. 8 étapes sont au menu de cette édition sur une distance de 1517 km. Ce tour, qui sera à sa 24e édition, prendra fin le 17 mai prochain.
Du basket, le tirage au sort de l'afro-basket féminin a eu lieu au Cameroun.
Exactement, Nathalie. Deux groupes de 6 équipes, le Cameroun, le pays hôte dans la poule A, va affronter les Mozambicaines, vice-championnes d'Afrique en titre, les Maliennes, vainqueurs en 2007, l'Afrique du Sud, l'Ouganda et le Gabon complètent ce groupe. Dans la poule B, les Angolaises, double tenantes du titre, seront quant à elles opposées, entre autres au Sénégal, 10 fois champion d'Afrique, mais également à l'Algérie. Les 3 autres équipes du groupe seront connues très bientôt, puisque 2 d'entre elles sortiront des éliminatoires des zones 2 et 3, tandis que la 3e équipe bénéficiera d'une invitation.
Football à présent, et on fait le tour de quelques championnats africains.
Direction la Côte d'Ivoire, avec la 18e journée de la Ligue 1 et le faux pas pour le Sporting Club de Gaïoua, battu à Abidjan par l'Africa Sport 1-0, ce qui profite à l'AS Standard, victorieux du stade d'Abidjan sur le même score et qui s'empare du coup de la 2e place avec 33 points. Une 18e journée qui a vu le bon comportement de Sewi Sport de San Pedro, vainqueur du Stella, 1-0. Le leader ASEC joue ce lundi à domicile face à Gorogo. Au Sénégal, le championnat est à sa 19e journée et le leader Tiamba a été tenu en échec à domicile 0-0 par le Casa Sport.
Au Gabon, le leader a été accroché par son dauphin.
Oui, Nathalie, pour le compte de la 9e journée, Manga Sport, qui évoluait à domicile, n'a mieux fait qu'un nul de 1-1 face à Missile FC. Le club de Mwanda compte tout de même 5 points d'avance sur son adversaire du jour. Le gagnant de cette journée est l'USB, le club de Bitam, qui a étrié OM 4-2. Par contre, le CF Mounana a été surpris à domicile 4-1 par la Pélican, désormais 5e.
Et en RDC, il était question de la mise à jour du calendrier.
Essanga Balende recevait à Moudimaï la SV Club. Les deux formations se sont séparées sur le score de 3-0. L'équipe de Florent Ibengue a raté l'occasion de terminer la phase aller de ce championnat à la première place. Une première place d'ailleurs occupée par le tout-puissant Mazembe. Mise à jour également du calendrier du côté de la Guinée, Conakry et l'AS Kaloum est allé battre le Felosa de l'Abbé sur la marque de 2-0. Le club de Conakry occupe désormais la 3e place avec 17 points à 8 longueurs du leader Oroya. Et puis, on reste avec vous, Nathalie, pour les résultats des playoffs en NBA.
Oui, deux matchs hier soir au United Center de Chicago dans l'Illinois. Les Cleveland Cavaliers l'ont emporté contre les Chicago Bulls par 2 points, 86 à 84. Et au Staples Center de Los Angeles en Californie, les Clippers ont gagné à domicile contre les Houston Rockets, 128 à 95.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Nathalie Barge pour vous présenter les dossiers du jour. En Guinée, l'opposition suspend sa marche initialement prévue pour ce lundi. Le chef de file de l'opposition, Sélou d'Alain Diallo, devrait rencontrer mardi le président Alpha Condé pour discuter de la crise politique. Le point avec notre correspondant à Conakry, Zakaria Camara.
Trêve à Conakry, il n'y aura pas de manifestation de l'opposition ce lundi. C'est pour donner une chance à la rencontre à Sierra Touréa entre le président Alpha Condé et le chef de file de l'opposition guinéenne. Ce dernier a annoncé la suspension de la marche après plus de 2 semaines de manifestations dans la capitale et dans certaines villes avec au moins 3 morts et plusieurs blessés. Une crise politique qui commence à donner des sentiments de déception en Guinée.
Je pense que les Guinéens ne méritent pas vraiment ce qui est en train de se passer dans ce pays. Ça fait 5 ans, les choses avancent mollo. Et je pense que les acteurs politiques doivent se retrouver autour de la table.
Les manifestations de l'opposition sont bel et bien légales, dans la mesure où ils manifestent pour un droit.
Moi, je pense qu'on ne devrait pas en arriver là. Il faut que les gens mettent là-bas la tête, qu'il essaye de s'asseoir autour de table de dialogue.
Le chef de file de l'opposition guinéenne, qui n'a pas répondu à l'invitation du président Condé pour des raisons, dit-il, de violence contre ses militants, se dit enfin prêt à échanger mardi avec le chef de l'État guinéen. Pour Ibrahima Souri Traoré, éditorialiste, c'est une occasion pour les deux hommes de trouver une issue à la crise.
Je crois que tout le monde attend beaucoup de cette rencontre. Il faut qu'ils se comprennent, il faut que le président donne une volonté de dialoguer, qu'il rassure son opposant. Et aussi, il faut que la GC le comprenne que ça ne peut pas se régler dans la rue.
Conakry, Zakaria Camara, pour La Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique à Conakry sur Sabari FM, Soleil FM et Gangan FM. La Voix de l'Amérique, c'est aussi sur Milo FM à Cancan et Siguiri, Liberté FM à Nzérékoré et Bolivar FM à Mamou.
Avec la recrudescence de la violence dans les localités nord du Mali, les populations sont de nouveau exposées à l'insécurité et elles ne bénéficient de quasiment aucun soutien de l'État qui est rarement présent dans ces zones. Les réfugiés de retour, les populations qui travaillent sont toujours pillées et spoliées de leurs biens. Ainsi, certaines communautés sont en train de mettre en place des comités de veille afin de partager les informations sur les déplacements des bandits armés. Un reportage de Kassim Traoré à Bamako.
Au moment où les autorités maliennes et la communauté internationale se battent pour préparer la signature de l'accord d'Alger, les populations victimes des récentes attaques de la part des groupes armés souffrent. Bari Aminata Touré, ressortissante du Nord.
On va parler de paix, mais il faut aussi la sécurité. Et le développement, c'est la sécurité. Nous avons besoin de routes, nous avons besoin de toutes les autres infrastructures et nous avons aussi besoin de sécuriser les personnes et les biens. Et on a parlé de comité de veille. Moi, je sais qu'il y a des comité de veille au niveau de la région de Tombouctou. Il y a un comité de veille à Tombouctouville, il y a un comité de veille à Ber.
Comme les localités citées, plusieurs autres s'attellent à mettre en place des structures de ce genre afin de se mettre à l'abri des attaques ennemies. Les réfugiés qui sont de retour aussi demandent le soutien du gouvernement malien.
Parce qu'il y a des retours volontaires qui sont partis avec leurs moyens. Ils sont retournés avec leurs moyens. Depuis qu'ils sont retournés aussi, personne n'a pas songé à eux. Il faut songer les pauvres populations. Ils ont mis leurs moyens. pour partir, ils ont mis leurs moyens pour...
Ce qu'on peut faire, c'est de dire à l'État de s'assumer, de faire son travail. C'est à lui d'administrer. C'est lui qui doit administrer et ça, on l'a dit, on le dira.
Rares sont les localités dans le nord du Mali qui ne souffrent pas aujourd'hui après les récentes attaques. Les plus exposés sont dans le cercle de Gundam.
Celui qui veut aller cultiver son champ, il ne peut pas le cultiver s'il n'y a pas de paix. Celui qui veut faire son transport, il ne le fera pas sans la paix. Les gens du Nord, elles souffrent non seulement de ces attaques, mais aussi de la pauvreté. Elles n'ont plus rien aujourd'hui, elles sont laissées à elles-mêmes. Regardez les gens du Mbunan et de Bintagogula, là où ils sont aujourd'hui. Leurs boutiques ont été pillées. Ils ne peuvent plus venir à Gundam. Et ils n'ont aucun soutien. L'État est absent. Les organismes sont absents. Les cadres de Saboko sont absents. Donc, ils sont laissés à eux-mêmes.
Face à l'insécurité grandissante, plusieurs imams, chefs coutumiers et chefs de village de la région de Mopti ont fui leur village pour venir se réfugier dans la capitale malienne, Bamako. Kassim Traoré, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique, 24 heures sur 24, à Bamako, sur 102 FM.
Fortement secoué par l'insurrection populaire burkinabé qu'il a vu perdre le pouvoir, le CDP, le parti de Blaise Compaoré, a désigné Eddy Kombogo comme nouveau président. Il était député de la majorité avant les événements d'octobre 2014. Il dit vouloir rompre avec le passé du CDP. Revenons sur ce congrès qui a connu des mouvements d'humeur d'un groupe de jeunes contre le choix de leurs représentants dans le bureau exécutif national. À travers un reportage de Zoumana Wonogo à Ouagadougou.
Que vaut encore le CDP, Congrès pour la démocratie et le progrès, après le tsunami de l'insurrection qui l'a vu perdre le pouvoir? En tenant son congrès, l'ex-majorité a répondu à cette question de par le thème « Face aux défis actuels et futurs du Burkina, bâtissons un CDP adapté à notre temps ». Et cette adaptation signifie, selon Eddy Kombogo, le tout nouveau président du CDP, rupture d'avec les anciennes méthodes. On l'écoute.
Changement générationnel, un changement projet économique, un changement projet de développement pour notre pays. Redonner au Burkina une justice attendue, une justice sociale, une justice tout court. Notre mentor s'est trompé et nous avons payé, nous avons compris qu'il fallait faire un diagnostic sans complaisance à ce congrès. Nous l'avons opéré, nous savons maintenant d'où vient le masque. Nous avons entendu le son, mais le son n'est pas seulement la modification de l'article 37, c'est cette requête sociale, ce chômage grandissant, cette misère grandissante.
À la clôture du congrès, on a assisté à un mouvement d'humeur d'un groupe de jeunes sous la bannière du crack. Le comité de réflexion et d'action pour le renouveau du CDP. Lassina Ouedraogo, le porte-parole du CRAC, explique.
Nous ne sommes pas contre X ou Y, mais nous demandons seulement qu'on fasse un peu attention au niveau des choix des personnes qui vont animer le parti, notamment à sa frange jeune. Il faut qu'on mette un jeune en qui la base se reconnaît. Parce que les gens sont en train de se révolter. Au vu des noms qui sortent, ce n'est pas ce que la jeunesse veut. Nous, à notre niveau, nous avons même élaboré un texte ferme, même comme on appelle le portrait robot de celui-là qui pourrait, par exemple, prendre la tête du parti. Mais aujourd'hui, la question de la tête du parti, pour nous, elle est réglée. Mais c'est ceux-là qui vont composer la frange jeune au niveau du parti. C'est ça qui cause problème. C'est ce qui coince. Ce qui est fort regrettable, dans les textes du parti, l'ouverture du congrès et la clôture du congrès, on n'a pas besoin d'un badge pour avoir accès à la salle. Mais aujourd'hui, à cause de tout ce qui se passe, de la mobilisation spontanée de la jeunesse qui veut un jeune à la tête du parti pour le représenter, c'est ce qui fait que les organisateurs donnent des instructions aux forces de l'ordre de les déguerpir comme quoi ils sont venus pour gâter le congrès.
Pourtant, le nouveau président Eddy Kombogo a mis son mandat sous le signe de la jeunesse. Zoumana Wonogo, Ouagadougou, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique au Burkina Faso sur Ouaga FM, 105.2 à Ouaga et 101.1 à Bobo. La Voix de l'Amérique, c'est aussi sur Horizon FM, à Ouaga, Bobo, Koudougou, Wayigouya et Fada.
La méningite continue de faire des ravages au Niger, où les autorités ne parviennent pas à vacciner l'ensemble des populations vulnérables. Certaines voix s'élèvent, estimant que la campagne de vaccination est discriminatoire. Il s'agit notamment d'élèves et d'étudiants qui ne comprennent pas la conduite opérationnelle des équipes médicales. Le point avec notre correspondant Abdoul Razak Idrissa.
Depuis plusieurs jours, les cours sont perturbés dans les écoles, les structures d'élèves et d'étudiants réclamant le fameux vaccin sans lequel ils disent ne pas poursuivre les études. Abou Koni Abdelkader est le secrétaire général du comité exécutif de l'Union des étudiants nigériens à l'université de Niamey.
Les milieux scolaires et étudiants, lieux de risque de contamination par excellence, du fait de la concentration, sont loin d'attirer un regard particulier de la part de nos décideurs, qui se croient à l'abri car ayant conservé les stocks restants à leur classe sociale. Même ceux de la faculté des sciences de la santé, qui sont en contact régulier avec les malades sur leur lieu de stage, ne sont pas vaccinés. Nous demandons à ces camarades de suspendre leur participation au stage jusqu'à leur vaccination et exigeons la vaccination des élèves, étudiants et tous les paysans au même titre que le personnel de la présidence, primature et ceux des autres institutions. De même, nous invitons toutes les forces vives de la nation à se mobiliser pour exiger la vaccination de nos concitoyens partout où ils se trouvent.
Que pensent les parents d'élèves de cette situation? Écoutez ces deux pères de famille.
Non, en tant que parent, moi, je demande aux élèves de patienter. Tout simplement parce que son excellence, le président de la République et le ministre de la Santé, et le gouvernement veille à la santé de toute la population, particulièrement aux élèves. Ce sont des enfants. Ça va venir. On ne doit pas les pousser à boycotter les études. Et nous, on n'a pas souhaité que cette maladie vienne au Niger. Ça vient du bon Dieu.
Les autorités, ils ont fait vacciner leurs enfants depuis le début. Mais pourquoi pas les enfants? Ou bien c'est parce que les parents sont pauvres? Ce ne sont pas des Nigériens? Nous sommes tous égaux. Le gouvernement, il a échoué sur ce plan-là. Le gouvernement a échoué parce que les vaccins doivent être prêts depuis janvier. Maintenant, on est en avril, on est même. C'est normal qu'il aille en grève. Même si c'est un mois que les élèves aillent en grève jusqu'à ce qu'on les vaccine.
Vendredi dernier, un groupe de jeunes a voulu organiser une manifestation spontanée à la place de la concertation pour protester contre cette situation. Il en a été empêché. Abdulrazak Idrissa, à Niamey, pour VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique au Niger sur Enfani FM à Niamey, Zinder et Agadez, et sur Radio Dalol FM à Dongondouchi.
En RDC, l'avenir de l'entreprise d'État Geka Mine serait radieux selon ses dirigeants, évoquant les nouvelles instructions du comité de gestion qui a pour but de relancer la production. Narval Mabila a tendu son micro à Jacques Kamenga, le directeur général de la compagnie.
Le conseil d'administration a mis en place un programme de relance prioritaire. Et vous allez constater que quand vous prenez les statistiques de la Geka Mine d'avant septembre 2014, la production ne dépassait jamais 1000 tonnes par mois. Depuis septembre, le conseil d'administration était catégorique, très sévère pour que la décision sur la maîtrise des coûts soit la priorité des priorités et qu'on relance la production. Depuis septembre, la production a tourné en moyenne autour de 1200 tonnes par mois. Au mois de mars, nous venons de réaliser la production de 1658 tonnes. Ce qui est extraordinaire, ça fait plusieurs années qu'on n'a plus réalisé cette production mensuelle. C'est... Première décision que j'avais prise, les directeurs techniques passent maintenant plus de temps à Likasi et à Kolwezi plutôt qu'ici à Lubumbashi dans le bureau climatique. Le directeur technique est plus au niveau des sièges de production. Toutes les réunions de production se tiennent désormais à Likasi, à proximité des exploitants, pour que je vive moi-même en réalité tout ce que les exploitants connaissent comme difficulté, au lieu de nous asseoir ici dans nos bureaux climatisés à Lubumbashi. Voilà la première disposition que nous avons prise, mais il y a aussi l'encadrement permanent des travailleurs. Le conseil d'administration a mis à notre disposition des moyens pour réhabiliter davantage nos usines. Et un peu plus en détail, c'est que les usines fonctionnent normalement. Le concentrateur de Kolwezi fonctionne à merveille. L'usine de cuivre de Kolwezi fonctionne à merveille. Au groupe centre, à Likasi, l'usine de Chitourou fonctionne très bien. Le concentrateur de Kambo fonctionne très bien. Nous avons un nouveau concentrateur HMS qui fonctionne très très bien. Les réserves de l'Echeka Mine, particulièrement en ce qui concerne le cuivre, aussi autour de 10 millions de tonnes de cuivre presque certifiées. Ça, c'est extraordinaire pour la Geka Mine. Parce que les gens ont cru que la Geka Mine a tous aidé dans les jeunes ventures et que la Geka Mine n'a plus rien. Nous avons encore beaucoup de réserves. L'avenir est très radieux et tous les espoirs sont permis avec la détermination d'abord du personnel. Et la Geka Mine a un projet ambitieux de construction d'une grande usine métallurgique qui va produire dans un premier temps 80 000 tonnes par an. au niveau des sites de Diziwa à Kolwezi, où nous avons des réserves de plus ou moins 5 millions de tonnes de cuivre. Nous avons un autre projet immédiat, la construction d'une usine métallurgique au niveau de Kambov. Ça sera une usine de 50 000 tonnes par an. Ce sont des grands projets qui donnent beaucoup d'espoir à la Gécamines, étant donné que tous les gisements sont encore intacts.
Jacques Kamenga, directeur général de l'entreprise d'État congolaise Gécamines. Ainsi va le monde aujourd'hui. La mise en onde était assurée par Anne Albertson. À la console, c'était John Ellison avec vous, Nathalie Barge. Retrouvez-nous sur Facebook et notre site internet voaafrique.com. Bon lundi à toutes et à tous.
Sur